Esprit.
Entendre.
Esprit.
Comprendre.
Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
On y va ? On débarque ?
Il n'y a jamais de loi favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée de la politique et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu et qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
Intellectuel et sans pouvoir. Et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Mounier était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Olivier Mongin, philosophe et ancien directeur d'Esprit, choisit un texte d'Akos Pushkash, publié en 1968, et nous parle du pouvoir communiste, de l'expérience du déplacement et de culture européenne.
Bonjour, je viens à la recherche d'un numéro d'Esprit, je vois que la bibliothèque est toujours là. Alors je cherche le numéro de février 1968 avec un dossier qui s'appelle « L'autre Europe ». Et dans ce dossier qui a été conçu par un certain nombre d'amis d'Europe centrale, il y a un texte que je trouve très intéressant. C'est le texte de Akos Pushkash, qui est un architecte hongrois. C'est son pseudo. Il s'appelait Akos Ditroy. Voilà, on va parler de ce texte.
Avoir vécu à l'Est la moitié des 20 ans du régime importé d'Union soviétique, puis le même laps de temps comme émigré dans une société occidentale, cela donne sur un côté et sur l'autre, et sur l'Europe en général, des idées différentes et sans doute plus exactes. C'est là une expérience très courante chez nos peuples, mais ignorée de la masse des soviétiques et surtout des occidentaux, qui gardent une connaissance très vague les uns des autres et qui se connaissent eux-mêmes moins qu'ils ne se connaîtraient en connaissant les autres, comme le savent bien les personnes et les sociétés déplacées. À une personne déplacée, l'opinion des sociétés établies apparaît dans tous ses conditionnements. Ce sont ces conditionnements que nous tenterons de découvrir, ceux de l'Europe occidentale, ceux du communisme, et aussi ceux qui valent avec moins de force déterminante pour cette société déplacée, qu'est l'Europe de l'Est.
Ce texte est extrait d'un dossier d'Esprit publié en février 68. Février 68, c'est quand même une date particulière. On est quelques mois avant mai 68. Donc voilà un dossier qui porte sur l'autre Europe, c'est-à-dire l'Europe centrale, et qui précède, au fond, tous les événements qui vont secouer la France en 68. On parle du maoïsme, le Parti communiste est critiqué à l'époque, mais il y a une ambiance très révolutionnaire. En même temps, est publié un dossier qui s'appelle « L'autre Europe », un dossier très original. On sait qu'à Esprit, c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a des groupes de travail, il y a des gens qui se réunissent sur des thèmes. Là, arrive dans le bureau de Jean-Marie Domnac, qui est le directeur à l'époque, un certain nombre de personnes regroupées autour de Pierre Candé et Akos Pushkash, qui est un pseudonyme, j'y reviendrai, et qui proposent de réunir à Esprit un groupe de gens issus d'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, disent-ils, pour réfléchir. Donc, Esprit est un lieu d'accueil de gens qui ne disent pas qu'ils sont des immigrés qui arrivent, ce sont des émigrés, émigrés, ex-migrés, c'est-à-dire qu'ils arrivent d'un endroit, l'autre Europe, et ils veulent momentanément pouvoir discuter de ce qui se passe, et chez nous, en France et en Europe, et de l'autre côté en Russie, puisqu'eux, ils sont pris en étau entre la Russie post-stalinienne, Staline est mort en 1953, et l'Europe. Et donc ce groupe de travail, il va réfléchir sur l'autre Europe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous, Européens, et à notre réflexion sur le monde. Alors Akos Pushkash, moi je suis arrivé à Esprit en 1972, c'est quelqu'un qui venait toujours à la revue. On l'appelait un peu une espèce de paysan du Danube. C'était un type immense. Il avait tendance toujours à casser des choses, des verres, etc. Enfin bon, tout ça, c'est anecdotique, mais quand même, c'était une présence très, très forte. Akos Puskás, c'est le pseudo de Akos Ditroy, qui est un architecte, philosophe, grand intellectuel, voilà, et qui a réuni autour de lui donc un certain nombre d'émigrés, comme il le disait. Ils sont là pour essayer de réfléchir sur ce que peut devenir l'Europe en fonction de ce qu'eux peuvent nous apporter à partir d'une double critique de ce que nous sommes, nous, occidentaux, qui croyons toujours être un petit peu à l'horizon de la philosophie d'histoire, et de la Russie, qui est considérée comme cette espèce de pouvoir post-stalinien qui essaye de les égorger. Voilà ce que je peux dire sur l'autre Europe. Sinon, qu'effectivement, à l'époque, on ne réfléchit pas nécessairement, comme ça va être le cas dès les années 75, en termes de démocratie totalitariste. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. L'autre Europe, c'est réfléchir sur une Europe autre. Ce n'est pas réfléchir simplement dans le contexte démocratie totalitariste. C'est vraiment réfléchir à partir d'une géographie et d'une histoire qu'on méconnaît. Et peut-être plus que jamais aujourd'hui.
Contrainte, l'Europe de l'Est l'est à un peu tout ce qu'elle ne veut pas. Au moins depuis ces 5 siècles qui, pour l'Europe de l'Ouest, sont devenus la période de l'essor et au cours desquels la Russie s'affirme comme troisième Rome. Mais si chez les Russes, une forte contrainte traditionnelle émanant du pouvoir est intérieure à leur pays, si les Occidentaux ont su atteindre une grande liberté externe et interne, l'entre-Europe connaît la domination qui vient presque sans interruption du dehors. Et si la poigne du pouvoir intérieur force le peuple russe, qui par lui-même est beaucoup plus naturel encore à faire de l'ordre, si les contraintes mentales que l'Occident a cru devoir sécréter afin de construire l'ont progressivement éloigné du naturel, les interventions étrangères ne demandent pas mieux que de détruire. Et ce faisant, elles ramènent sans cesse la société à un état premier des choses. Le développement économico-social plus malaisé dans tout l'Est ne se serait tout de même pas fixé à un niveau si proche de la pure civilisation paysanne dans les Balkans, en Roumanie et en Hongrie, sans la conquête turque, en Pologne, sans la périodique et partielle souveraineté russe. Dans ces pays coupés de l'Ouest au moment de la Renaissance, ou bien par intermittence, il manquera la racine ou la continuité de la nouvelle culture après celle de la foi. Et détruisant les structures étatiques, mentales comprises, finesse politique, confiance dans l'autorité, les envahisseurs de l'Ouest, de l'Est, du Sud, laisseront en place les structures nues de la société, dans tous ces pays, les églises, puis l'intelligentsia, organiseront la survie.
Ce qui est intéressant dans l'extrait du texte de Akos Puskás Ditroy, qui fait écho à pas mal d'autres textes, c'est qu'au fond, il nous propose une approche critique à la fois de notre Occident européen de l'époque, nous serions la bonne démocratie vers laquelle tout le monde doit se tourner, ou la méchante Russie, effectivement, qui a complètement aliéné les sociétés d'Europe centrale. Alors, ce que montre ce texte, c'est que les sociétés d'Europe centrale, ben, effectivement, elles ont des vices et des vertus. Les vices, c'est de pouvoir simplement dire ben, « on n'existe pas ». On est dévoré par le méchant pouvoir, celui de la Russie. Alors ça peut donner des visions qu'on a d'une Russie qui fait qu'il n'y a plus de peuple, qu'il n'y a plus de population, qui ne sont pas sans faire écho aujourd'hui. Est-ce que la servitude volontaire est totale en Russie? Où est le peuple russe? Là, c'est où sont les peuples d'Europe centrale? Mais le peuple d'Europe centrale, ils peuvent aussi, en mauvais migrants, et non pas les immigrés déplacés, comme ils s'appellent dans ce dossier, ils peuvent aussi être des snobs et finalement vivre comme des bienheureux dans le Paris de Saint-Germain-des-Prés et de tout ce que vous voulez. Alors ce qui est intéressant au fond, c'est que ça veut dire très simplement, encore faut-il aller voir les textes qui sont très profonds et très inscrits historiquement, ça revient à dire au fond, on vit une expérience du mal. Le mal, c'est pas que le mal métaphysique, c'est le mal politique, c'est la maladie, c'est la faim, c'est la misère qu'ont connu, par exemple, au moment de la famine, les Ukrainiens. Donc, on vit mal, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de cette expérience du mal ? Il y a deux pistes qu'on peut tirer qui sont vraiment intéressantes. D'une part, l'approche, elle n'est pas tellement intellectuelle. Les intellectuels, souvent, pour eux, c'est des idéologues. Comme il y en a eu beaucoup en Russie et chez nous à l'époque, n'oublions pas. Donc c'est moins les idéologues qu'il faut nous apprendre déjà à revivre notre culture et à réinventer un peu la manière dont nous vivons. Alors ça fait écho à un moment au cinéma, par exemple. Dans l'époque de l'après-guerre, et donc jusqu'à ces années 70, marquées par des révolutions démocratiques, rappelons-le, 53 Berlin, 56 Budapest et la Pologne, et bien entendu 68 la Tchécoslovaquie. Au moment, j'aurais dû le dire d'entrée de jeu, où nous on fait mai 68, il y a un cinéma aujourd'hui qui mériterait d'être revu au moment de l'Ukraine, c'est le cinéma de gens comme Haas, Munk, Vajda et de Polanski aussi. Mais aussi c'est l'occasion d'évoquer toute la production littéraire. Alors là je citerai Miloš, fondamental. Miloš, prix Nobel de littérature, qui va enseigner aux États-Unis. On peut rappeler Bibo, Kundera, Vaclav Havel, Jan Patočka. Tous ces auteurs, aujourd'hui, ont beaucoup à nous apprendre de ce qui se passe. Pas uniquement de l'autre Europe, de notre Europe. Et pour revenir à Esprit, il y a aussi le rôle de pas mal de revues qui sont en lien avec Esprit, surtout en Pologne. C'est la revue Znak. Znak, qui est la revue de Tadeusz Mazowiecki, qui va devenir président de la République plus tard en Pologne. Donc c'est pour dire qu'il y a tout un milieu culturel qu'on a tendance aujourd'hui à ignorer, qui est dans l'artistique et qui est dans la littérature, beaucoup plus que dans l'idéologie. Deuxième thème qu'il faudra aborder, c'est la thématique de rupture. Bien entendu, tous ces gens ont un accord commun, c'est ce qui s'est passé en 1956, c'est-à-dire c'est l'invasion russe à Budapest. Les révolutions sont des révolutions pacifiées, non violentes, des révolutions antitotalitaires. Pour eux, c'est le modèle, au fond, de ce qui doit pouvoir rendre possible une démocratie différente. Et je pense que la question de la non-violence est fondamentale dans la réflexion qui est faite là. On pourrait là-dessus continuer longuement. Bien entendu, ça fait écho à tous les travaux de Hannah Arendt sur ces moments de ce qu'elle appelle les urrections. Elle évoque d'ailleurs les conseils ouvriers de 1917 et elle évoque 56 à Budapest. 56, là, c'est complètement présent dans tous les textes et fait écho à ce qui va arriver après, à la charte 77 à Prague et toutes les chartes qui vont avoir lieu en Chine ou ailleurs. Donc on a des espèces de mouvements là démocratiques qui ne sont pas le mouvement des mouvements politiques institués ni des mouvements violents d'insoumission qui prennent un sens historique. Et personnellement, je pense que les printemps arabes ne sont pas sans faire écho et le mouvement du Irak en Algérie aujourd'hui. Voilà, mais ça, il faudrait pousser la chose. Et dernière remarque, c'est qu'à l'époque, moi, comme j'ai dit, je suis arrivé à Esprit vers 73, mais dans les années qui vont suivre, les émigrés, c'est aussi un peu nous, parce qu'avec Paul Thibault surtout, et Domnac aussi, on va être beaucoup plus souvent dans les pays, dans ces pays-là, avoir les amis des émigrés qui ne peuvent plus vivre là-bas, mais qui sont, qu'on va progressivement appeler les dissidents. Et un boulot qu'on va faire en permanence, c'est d'amener des textes des uns aux autres et des autres aux uns. Voilà. Esprit, au fond, va faire le mouvement vers l'autre Europe à l'inverse. C'est ça qui est intéressant si on veut commenter un peu ce dossier. La découverte, c'est que tout ce monde-là est un monde très artistique et très marqué par le monde des écrivains ou le théâtre. N'oublions pas, plus tard, en Pologne, Witkiewicz, des gens comme ça, c'est très important au théâtre. Et il y a tout un mouvement théâtral qui va arriver, d'ailleurs, de Pologne en France, via le Festival de Nancy, qu'a inauguré à l'époque Jack Lang dans les années 70. Donc c'est un mouvement très littéraire. Littéraire, ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est pas la fiction au-dessus de la réalité. Pas du tout. Souvenez-vous quand même, l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, on va commencer à en parler en 72, et Esprit va être minoritaire, pas tout seul, avec bien d'autres. Et il y a plein de mouvements, mais plus marqués à droite en France, comme tous les amis de Raymond Aron, qui bien entendu vont soutenir, et Hannah Arendt a déjà fait le boulot, comme on l'a déjà dit. Mais quel est le sous-titre de l'archipel du goulag? C'est « Essai d'investigation littéraire ». C'est-à-dire que si moi, Solzhenitsyn, j'arrive pas à me projeter dans le personnage du Zec, à imaginer qui est le Zec, ce n'est pas un objet. Le Zec, c'est l'homme du goulag. Le goulag, ce n'est pas un objet. C'est quelque chose qui est pétri de chair humaine et de chair plutôt inhumaine. C'est ça qui me paraît très important, c'est que la question du mal et de l'inhumanité, elle ressort alors que nous, on a tendance, c'est ce que dit Puskás, nous, on vit la société de consommation, on est très heureux, Esprit fait la critique de la société de consommation. Mais eux, ils nous parlent, non, de ce qui va mal, de ce qui fait mal au corps et à la tête.
La Pologne et les pays tchèques, entre l'Allemagne et la Russie. La Hongrie, entre les Habsbourg et les Ottomans. La Roumanie, entre Byzance et la Latinité. Les Balkans, entre la chrétienté et l'islam. Que d'interrogations. À qui appartenons-nous ? Aux uns ? Aux autres ? Aux uns et aux autres ? Ni aux uns ni aux autres ? Et qu'est-ce que nous appartenir à nous-mêmes ? N'est-ce pas aussi marier les « et » avec les « ni » ? En ce sens, actuellement, l'inclination spontanée vers l'Occident ne fait que contrebalancer l'appartenance politique au camp de l'URSS. Et cette appartenance n'est que l'image inversée de l'époque où, tout entière, cette Europe-là appartenait à l'Ouest. Mais que le temps joue ainsi à la balançoire, que la réalité sociale soit ainsi opposée à l'aspiration sociale et que le désir aille vers celui qui le refuse, tout cela ne fait que souligner un double fait. L'Europe de l'Est, depuis longtemps, n'arrive pas à être politiquement elle-même et a beaucoup de mal à être culturellement elle-même. Ces deux aspects de l'extracentrisme auxquels nous nous trouvons ainsi ramenés se nourrissent-ils mutuellement ? Si ce que la domination extérieure peut faire pour influencer les esprits est bien connu, n'est-il pas encore plus profondément vrai que la servilité d'esprit d'une communauté l'empêche de remplir ses dimensions plus radicalement que n'importe quel obstacle extérieur ? Ces deux aspects de l'extracentrisme auxquels nous nous trouvons ainsi ramenés se nourrissent-ils mutuellement ? Si ce que la domination extérieure peut faire pour influencer les esprits est bien connu, n'est-il pas encore plus profondément vrai que la servilité d'esprit d'une communauté l'empêche de remplir ses dimensions plus radicalement que n'importe quel obstacle extérieur ? Condamnée selon toute apparence à être une entité à part, l'Europe de l'Est ne devrait-elle pas abandonner son orbite de lune de la planète ouest européenne pour devenir elle-même planète du soleil de l'humanité ? Livrer à tous ce qu'elle possède, faire de sa fidélité, son respect, son ouverture d'esprit, de toute cette moralité allocentrique, un centre en soi. C'est par là que sa disposition à la symétrie culturelle et géographique deviendrait l'expression consciente de sa situation. Un centre ouvert pourrait devenir aussi un passage entre deux mondes.
Puskás dit Troy est intéressant parce qu'il synthétise un peu l'ensemble des textes des 9 personnes qui viennent de pays différents, hein, d'Europe centrale. Bien entendu, pour moi, c'est peut-être le dossier que j'ai relu automatiquement, spontanément, plutôt après le 24 février, donc jour du début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, parce que quelque part, c'était comme une réponse de ce dossier, c'est-à-dire, même si on n'avait pas imaginé qu'il y aurait une résistance aussi forte de l'Ukraine et que Kiev ne tomberait pas, on a vu quand même une autre Europe se constituer, c'est-à-dire la revendication de la souveraineté ukrainienne, alors que justement, l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre, qui est toujours un peu en dehors de ces dossiers, finalement, était conçue comme une espèce d'appendice de la Russie. Donc là, le dossier, il prenait toute sa force, mais je dirais plus largement, il nous ramenait à une réflexion qui dépasse peut-être même ce qu'on a évoqué sur la mémoire de l'Europe. Alors moi, ce qui me frappe le plus, ça va être la nécessité pour l'Europe, cette Europe, qui n'est pas l'Amérique liée à l'OTAN, pour notre Europe et l'Europe institutionnelle, de peut-être se confronter un peu plus aux crimes du XXe siècle, ceux dont parlait Patochka. Et Patochka, c'est cet auteur qui fait donc la charte 77 avec Václav Havel, qui dit de toute façon, l'Europe a commencé à rentrer dans ce qu'il appelle les siècles de la guerre en 1914, et on n'en est jamais sorti. Donc, reprendre cette question des deux crimes, même si, comme moi et à Esprit, ça a toujours été le cas, on n'a pas mis sur le même plan le crime nazi lié à un racisme et à la Shoah et un génocide contre les Juifs, et le crime qui est beaucoup plus complexe, qui est autre, plutôt stalinien, pour ne pas parler du crime totalitaire soviétique. Hein. Tout ne s'est pas arrêté en 1991, comme on a pu le croire. Voilà, et on voit avec Poutine qu'on essaie de réécrire l'histoire. Bon, ça, les gens, on l'a compris. Mais moi, je pense qu'il y a cette première question, déjà, en tout cas pour les jeunes générations européennes, de comprendre que le monde a dénazifié et aussi un monde a déstalinisé peut-être encore un peu plus. Ça, c'est un premier point. Surtout quand la démagogie règne à nouveau dans l'espace politique et que les idéologues sont très en vogue dans notre pays. Et le deuxième point, je voudrais évoquer simplement tout le travail historique d'un grand monsieur qui a été aussi publié dans Esprit, qui a été accueilli ici, qui est Timothy Snyder, qui a quand même écrit le livre des livres pour moi sur cette zone géographique qu'il définit très bien, lui, la Biélorussie, l'Ukraine et la Lituanie, dans un livre qui s'appelle « Terre de sang », où il montre que c'est quand même les pays qui en ont pris le plus dans, je dirais, l'horreur, l'inhumanité de toute l'histoire du XXe siècle. Il faut donc quand même voir, en écho au texte de Dutreuil, nous, on est un peu des territoires dévastés. C'est quand même, mentalement et physiquement, c'est quand même pas mal de remonter l'histoire de l'Europe et de ne pas de se contenter de croire qu'on va réinventer. Eux-mêmes faisaient la critique, une Europe uniquement, on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que c'est bien plus compliqué, à base de commerce, etc., etc. Donc la question de l'Europe, elle se repose fondamentalement, surtout à un moment où la guerre, elle est plus tenue, on voit très bien, par les Américains, et que l'avenir va plutôt être une extension de l'OTAN qu'un renforcement, moi je le pense, militaire de l'Europe. On voit très bien que la question sur l'imaginaire européen ne se pose jamais aussi fortement que jamais, et par rapport aux États-Unis, au devenir de l'OTAN, que je ne critique pas personnellement, et au devenir de la Russie, qui n'est pas non plus simplement le pays du mal absolu, où la population serait totalement rivée au chef Poutine.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Hortense Bellotte. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.